Cette semaine à Montréal se tient le Startup Fest, donc on peut dire sur le festival des jeunes pousses, parce qu'en français, oui, le mot startup, c'est jeunes pousses. On faudrait s'habituer à le dire, hein? Je ne sais pas si on pouvait peut-être traduire ça par jeunes pousses fest, ça serait peut-être moins...
Ça fait plus comme écologie.
Oui, c'est vrai.
On pousse des concombres.
Ça fait assez particulier. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont tenter de se faire voir parce que quand tu es entrepreneur, c'est important. Obtenir des conseils également de mentorat. Et ça nous amène à s'intéresser à la vie des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs au Québec ont la cote. On les entend dans les médias. Il y a des émissions comme Les Dragons depuis plusieurs années. On les voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Ça semble même pour certaines personnes assez jet-set, très glam, très je mets une photo sur Instagram.
Lifestyle,
ouais. Exactement. Mais on ne devient pas entrepreneur. Ce n'est pas tout le monde qui peut l'être. Ce n'est pas tout le monde qui va réussir non plus. Il faut faire des efforts. Alors, on va parler de comment bien partir une entreprise, comment être entrepreneur avec Nicolas Duvernois, PDG de Pure Vodka et Romeo Gin. Salut Nicolas.
Allô,
merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Nicolas, je l'ai dit, il y a une opinion assez favorable quand même concernant les entrepreneurs. On imagine qu'il y a un mode de vie. Est-ce que les gens parfois ont une mauvaise idée de c'est quoi être un entrepreneur?
Absolument. Tellement. Parce que, tu sais, il y a une surexploitation, il y a le rêve entrepreneurial. Tu sais, on parle toujours de Facebook, Amazon, Google. Mais la vraie vie, les entrepreneurs, c'est le 99% des PME ou même des petites entreprises qui, pour certains, ne peuvent avoir que 1, 2, 3 employés, qui ont des bas salaires, mais qui font vivre, par exemple, toute notre province. Parce que l'économie du Québec est basée sur la puissance de nos PME. Donc, c'est sûr qu'on regarde toujours... Puis, OK, on parle toujours des joueurs de la Ligue nationale, mais on ne parle pas des millions qui ne sont pas dans la Ligue nationale. Donc, on parle toujours des exemples qui se sont démarqués d'une manière grandiose.
Mais, et toi, tu t'es démarqué par ton histoire, mais les gens oublient souvent d'où t'es parti.
C'est clair. Le monde voit aujourd'hui les médailles, il voit les dragons, il voit tout ça, mais il ne voit pas au 4e 6 à l'hôpital Sainte-Justine à minuit en train de laver le plancher. Il ne voit pas Caro, ma copine, qui est aujourd'hui ma femme, qui me faisait vivre. Il ne voit pas ma marche de la honte là, chez mes parents là, pour demander 100$ chaque mois pour payer mon bill cellulaire. Le monde ne voit pas ça. Il voit aujourd'hui les bons côtés. Certains me disent que j'ai été chanceux dans la vie. J'ai plutôt travaillé pour atteindre cet objectif-là, mais il n'y avait aucune garantie de succès, exactement.
Ouais. Et le succès, maintenant, bon, tu as une certaine forme de succès, mais ça se travaille encore.
Mais au quotidien. Ouais. Puis dans le temps, je dis toujours, c'était le fun parce que j'avais rien à perdre. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à perdre. Donc, il y a encore beaucoup plus de stress. Et puis, les problèmes sont les mêmes hein, parce que gérer une croissance, qu'elle soit de passer de 0$ à 1 000$ ou gérer une croissance dans des millions, la base du problème est le même. C'est juste qu'il y a plus de 0 à tes problèmes.
Est-ce que les gens se lancent en affaires pour les bonnes raisons, toujours pour les bonnes raisons?
Pas tout le temps, non. Ce qu'on peut voir, c'est... Mais il y a une mode, hein? Il y a une mode. On se rappelle la mode des chefs, hein? Il fallait tatouer là, les avant-bras, puis faire à manger, puis avoir un lifestyle plus ou moins
avec
santé.
Avec de l'alcool, du
exactement. Aujourd'hui, la mode, c'est d'être entrepreneur. Avec le plein emploi, il y a beaucoup de personnes qui décident de se lancer en affaires. C'est sûr que se lancer en affaires, c'est une chose. Survivre en affaires, c'en est une autre. Je ne connais pas exactement les statistiques, mais au moins 90% des personnes qui se lancent en affaires ne réussiront jamais en affaires. C'est extrêmement compliqué. Ça prend beaucoup de différents... un peu de chance, beaucoup de travail, de la persévérance, des add-ons, des bonnes rencontres, savoir s'entourer. Tu sais, c'est tellement complexe. Ce n'est pas une science exacte. Donc, il n'y a pas un chemin. Hein. Tu sais, pour être architecte, je dis toujours ça. Moi, mon rêve, c'était d'être architecte. J'avais pas la cotère pour être architecte, on va se le dire. J'avais pas de cote. Hein. J'étais une cote, point final. Mais il faut que tu ailles à l'école en architecture, puis tu suis tes cours, puis tu deviens architecte. Mais en affaires, c'est pas ça. Moi, j'ai fait sciences poétiques, je suis devenu entrepreneur. Il y a des personnes qui font ergonomie, puis qui deviennent entrepreneurs. Il y a des personnes qui étudient en entrepreneuriat qui ne seront jamais des entrepreneurs. Donc, c'est assez complexe.
Chemin.
Non, c'est toi qui défriches ton propre chemin. Là.
Mais justement, quelqu'un qui a une idée. On va commencer par la base de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai envie de vendre, disons, des savons. J'ai une passion pour les savons. Je fais quoi? Une fois que j'ai ma recette de savon puis que je pense que mes savons sont les meilleurs, je vais où? Je fais quoi? À qui je parle?
Tu as dit le mot parfait. Tu as une passion. Il faut d'abord que ça commence par une passion parce que les années de vache maigre, c'est très complexe quand tu n'as pas de passion. Hein? Quand tu te lances en affaires, tu crois que tu vas faire de l'argent. Tu es beaucoup plus rapidement millionnaire en dette que millionnaire en avoir en affaires, on va se le dire. Ça commence par quoi? Moi, je dis toujours que c'est comme un squelette d'un être humain, un plan d'affaires. Le meilleur plan d'affaires possible, mais être obsessif sur son plan d'affaires pour connaître non seulement ton industrie, mais tous les acteurs de ton industrie. Moi, je crois que c'est très important. Je dis toujours qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un de très curieux. c'est un généraliste. Tu sais, c'est bien beau de tout savoir sur l'industrie des savons, mais si tu sais pas comment ça se passe dans les commerces qui vendent des savons, ben t'es pas plus avancé. Tu sais, il faut que tu connaisses toute la ligne de ton produit, entre guillemets. Moi, j'aurais beau avoir lancé de la vodka, si je savais même pas que la SAQ existait, ben là, ça commence mal.
Ouais. Hein?
Parce que c'est là que, qu'on vend. Donc, un plan d'affaires, moi, encore maintenant, on lance des nouveaux produits presque chaque année et on travaille des plans d'affaires comme si on était, OK, on connaît rien, recommençons. T'sais, c'est vraiment important d'être le plus outillé possible, de se mettre le plus de chances possible de son côté pour avoir une toute petite chance de réussir.
Et de demander conseil à qui on arrive, parce qu'on a besoin, bon, tu l'as mentionné, tu as plus de dettes au départ que de rentrée d'argent. Mm-hmm. Puis c'est correct aussi parce qu'il faut trouver parfois des locaux, des employés à payer et tout ça. Mais je vais voir qui, parce qu'une fois que tu as vu la banque peut te faire un prêt, les ressources nécessaires.
Mais je trouve que c'est super important d'aller d'avoir confiance en soi. Mais tu sais quoi, meilleur ton plan d'affaires est, plus tu vas avoir confiance en toi. Mm-hmm. Et ça va envoyer un signal que tu es sérieux. Ça fait que déjà là, on part bien. Ensuite, moi, j'adore poser des questions à des personnes de différentes industries aussi. Parce que des fois, l'innovation, la meilleure idée que tu vas trouver, c'est pas nécessairement en regardant ce que ton compétiteur fait. Souvent, tu as beaucoup moins d'argent que ton compétiteur, donc tu vas juste le faire moins bien. Mais des fois, c'est juste de sortir des sentiers battus puis d'aller chercher les meilleures idées ailleurs puis de les traduire dans ton industrie. Je crois beaucoup au mentorat, je crois beaucoup à l'accompagnement, mais s'il vous plaît, de choisir des bonnes personnes. Aujourd'hui, il y a une épidémie de coach de vie, coach de croissance, de tout ce que tu veux. Il faut faire attention. Beaucoup de charlatans là-dedans. Vu qu'il n'y a pas, tu sais, vu qu'il ne faut pas un diplôme là, pour dire je suis psychologue, là, puis il faut un doctorat pour être psychologue, mais tu sais, en coach de je ne sais pas quoi, ça n'existe pas non plus. Donc, regardez le background de la personne. Moi, j'aime beaucoup des personnes qui n'ont pas juste eu des succès dans la vie. J'adore l'échec parce que l'échec, ça fait mal, puis tu ne veux pas le revivre. Moi, ma première expérience en affaires, ça a été catastrophique. Puis crois-moi, tous les jours, je me lève, puis je pense aux mots de vente que j'avais quand, tu sais, j'adore dire j'ai ouvert un restaurant, je l'ai surtout fermé. Fait que.
Restauration, oui, il y en a beaucoup. Là,
moi, je suis un pro pour fermer des restaurants, je suis vraiment top. Je suis vraiment un des rares qui excelle là-dedans. Mais donc, regardez l'expérience de la personne. Est-ce qu'il y a des cicatrices dans le dos? T'sais, est-ce qu'il a passé des étapes? Là,
De plus, regarder peut-être même les échecs, comment il s'en est sorti.
Exactement.
Ouais, parce que c'est correct de tomber, mais il faut savoir se relever.
La résilience. Ouais.
Nicolas Duvernois, merci d'être avec nous. On poursuit
la
discussion après la pause. Et si vous avez des questions à lui poser, vous êtes vous-même entrepreneur, vous avez besoin de conseils, vous voulez nous parler de votre expérience, 514-790-9850. En compagnie de Nicolas Duvernois, PDG de Pure Vodka et de Romeo Gin, on s'intéresse aux entrepreneurs. Entrepreneurs, il y en a beaucoup au Québec. Et moi, je trouve ça bien parce qu'évidemment, on parlait de passion. De se faire un plan d'affaires. Mais il y a une chose souvent que les gens oublient, c'est le travail acharné des entrepreneurs, de ceux qui vont réussir. En fait.
Je dis toujours que le mot travail est le mot le plus sous-estimé du dictionnaire. Écoutez, avoir du talent, c'est une chose, mais le travail, là, c'est... Tu sais, moi, je fais beaucoup de comparaisons avec le monde du sport. Tu sais, Michael Jordan, c'était pas le gars le plus talentueux, mais il travaillait comme non-stop. Puis je me rappelle d'un documentaire que j'ai vu, il venait de faire un match, je crois qu'il avait gagné, il avait marqué 40 points, 13 rebonds, tu sais, genre de truc de fou. Il a attendu que le stade soit vide, il est retourné pratiquer. C'est cinglé.
Mais le travail, c'est Nick Crosby qui vient pratiquer, s'est lancé au Mont-Tremblant.
T'sais. On se rappelle du documentaire de Céline Dion, là, où il faisait le tour du monde. C'est un autre type de travail, mais elle était en permanence en train d'essayer de s'améliorer. Elle est en train de remplir des stades au Japon. Tu peux relaxer, ma fille? Non, elle continue. Donc, moi, je crois vraiment que le travail... Tout le monde veut le succès, mais ne comprennent pas que c'est avec le travail que tu atteins le succès.
Mais penses-tu qu'on est un petit peu paresseux au Québec? On l'avait déjà dit il y a quelques années, Lucien Bouchard disait « Travailler! »
Mais je crois qu'on est plus... je crois que la réalité de l'entrepreneuriat au Québec ou des entrepreneurs, c'est qu'il y a beaucoup de créativité. Et la créativité mène beaucoup à être dans sa tête puis à avoir l'air... Tu sais, moi-même, premièrement, il y a beaucoup de monde qui disait « Écoute, t'es donc bien perdu des fois, toi. » Non, mais c'est parce que c'est dans ma tête, tu sais, puis on dirait qu'on suit pas la... Tu sais, on est une société distincte, mais nos entrepreneurs aussi, tu sais. Mais non, je crois que c'est... On est vraiment de très bons... Il y a vraiment de très bons entrepreneurs au Québec. Et puis, c'est vraiment une de nos forces d'avoir justement cette créativité-là.
Et les pires erreurs qu'on peut faire comme entrepreneur, ça pourrait être lesquelles?
Écouter les autres. les pires erreurs. Écoute, moi, j'ai découvert au fil des années l'importance, puis vous allez tous rire, là, mais de la comptabilité. Aujourd'hui, j'ai un chef des finances à PA, puis ça change tellement notre vision. Puis au début, tu ne peux pas suivre ça. Parce qu'au début... quand tu sais même pas si tu peux survivre, tu vas pas suivre ta règle d'être profitable. Tu sais même pas si tu vas survivre. Fait que tu risques tout tous les jours. Mais plus tu grandis, plus tu réalises qu'avec une équipe qui commence par la comptabilité, mais bien sûr, mais il y a les relations médias, il y a la directrice marketing, il y a le directeur des ventes, Stéphane, Annick, Chloé, tout ce monde-là. Sans eux, c'est impossible de réussir. Donc, c'est de croire qu'on peut tout faire seul puis de refuser de s'entourer. Il y en a beaucoup. Hein. Mm-hmm. Tes protecteurs, c'est ton idée, c'est ton bébé. Mm. Aujourd'hui, on fait des événements, je l'apprends sur les réseaux sociaux tellement j'ai réussi à me départir, à me sortir du quotidien. Puis ça fait du bien parce que j'ai engagé du monde en qui j'ai confiance.
T'sais. Savoir bien s'entourer, ouais. Ça, c'est vraiment une qualité ouais. aussi. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que toi, t'en vois une entre quelqu'un qui est un entrepreneur qui va bâtir ouais. son entreprise ouais. et un travailleur autonome?
Ben, j'ai lu à un moment donné un article, c'était super intéressant. Il disait qu'un entrepreneur faisait de l'argent quand il dort. C'est-à-dire, l'exemple parfait, moi. On vend au Japon, en France, en Angleterre, tout ça. Ben des fois, ben là-bas c'est ouvert, puis ici, ben je dors. Donc, tandis qu'un entrepreneur autonome ou un travailleur ouais. autonome, comme un massothérapeute ou quelque chose, ben il faut que c'est son travail, c'est ses mains ou sa parole, peu importe, qui fait en sorte qu'il y ait un revenu. Donc là, je trouvais ça intéressant comme définition entre guillemets. Mais pour de vrai, un entrepreneur, moi, je crois qu'on n'a même pas besoin d'être en affaires pour être un entrepreneur. C'est quelqu'un qui s'entreprend, qui veut faire mieux. Moi, je crois beaucoup à l'intrapreneuriat des employés à l'intérieur d'une entreprise qui n'est pas la leur, mais qui prennent des initiatives personnelles puis tout ça. Donc, tu sais, est-ce qu'il faut vraiment donner une définition de ce qu'est un entrepreneur? Mais j'ai bien aimé cette définition-là parce que c'est vrai que, bon, ben là, c'est autre chose quand mm-hmm. tu fais de l'argent, quand tu dors, entre guillemets, ou quand tu as des employés aussi. À un moment donné, si tu n'as pas d'employé, est-ce qu'on peut considérer ça comme un entrepreneur? Je n'ai pas la réponse nécessairement, puis je ne tiens pas nécessairement à définir que Larousse s'en charge. Là, et puis,
On va parler avec Luc, qui est entrepreneur. Bonjour, Luc.
Oui, bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, ça va très bien. Un point, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que souvent, les entrepreneurs ne regardent pas leurs chiffres, ne savent pas compter. Moi, j'ai été souvent dans des réunions d'entrepreneurs et j'ai toujours été impressionné que les gens ne connaissent pas leur marge de profit, où ils s'en vont exactement. Et pour moi, ça, c'est un gros problème. L'éducation, au point de vue comptable, est souvent pas faite. Mm-hmm. Les gens partent en business, mais ils savent pas calculer.
Ben écoute, moi, je le vis en direct au Dragon. Hein. On pose des questions de base et les personnes ne peuvent pas répondre. Pourtant, ils se sont préparés. Là. Ça fait un mois qu'ils savent qu'ils vont passer à la télé. Là. Va prendre un rendez-vous avec ton comptable. C'est très important. Puis c'est pas sexy. C'est le côté le moins sexy de l'entrepreneuriat.
C'est l'affaire plate, là, que ouais, les gens ont dans les
mais
chiffres. Mais
il faut que tu sois en amour avec. Ouais. Tu sais, ton comptable, ça doit être ton meilleur ami.
Je vous écoute à l'occasion, puis vous me dites, c'est quoi votre chiffre d'affaires? Combien vous faites? Puis les gens ont un jour l'air surpris, puis ça fait déjà une heure qu'ils expliquent leur produit. Vraiment incohérent. Là. Pour moi, ça, c'est un problème. Peut-être plus même francophone qu'anglophone. Souvent, j'ai rencontré des anglophones et des Américains, que je fais souvent business avec eux autres. Ils connaissent plus leurs chiffres que nous. C'est peut-être juste une image que j'ai.
Ben, ils sont plus business à l'américaine que nous. Tu sais, nous, on est vraiment... moi, je dis toujours que c'est une beauté. D'ailleurs, moi le premier, moi, mon père est français, il vient de Bourgogne, ma mère vient du Saguenay. Donc, tu sais, je suis vraiment un moitié-moitié. Puis les Québécois sont dans leur tête moitié-moitié. Donc, ils ont le côté business à l'américaine, mais ils ont aussi un peu le bordel collectif qu'on a en Europe. Et donc, ça fait des fois en sorte qu'on a des superbes produits, mais on ne sait pas combien ça nous coûte le faire.
c'est là qu'à la fin aussi du mois, oui.
Oui.
C'est la base de la business, là, parce que sans marge, sans profit, tu ne peux pas vivre. Fait que c'est vraiment très important. Là.
Merci beaucoup, Luc, de votre appel. Nicolas, il y a une chose qui est importante aussi. On parlait de mentorat tantôt.
Oui.
Vous avez lancé Adopt
oui.
Inc.
Oui.
Justement pour aider.
Exactement. Il y a 3 ans, avec Anne Marcotte et Philippe de Gaspé-Beaubien, moi, j'ai décidé de lancer un mouvement entrepreneurial, mais qui allait aider directement les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'un entrepreneur a besoin? A besoin d'un salaire? A besoin d'un mentorat, d'un mentor qui ont des cicatrices dans le dos, et a besoin de la formation continue. Donc, on offre tout ça. Et puis, on est super contents parce qu'on a des partenaires de feu, des jardins, Norton Rose, de Loi, tout ça. Et puis, on est rendu à 75 entrepreneurs adoptés, 600 000 $ de salaire versé. Et puis, on triple là-dedans. Moi, je crois vraiment à aider. Tu sais, les entrepreneurs, là, il faut qu'on comprenne que c'est pas simplement des créateurs d'emplois et des créateurs de richesses. C'est des créateurs de fierté. Moi, quand je reçois un courriel d'un Québécois en vacances qui est au Costco au Japon, qui prend une photo de Romeo's Gin puis qui dit « Ton gin est au Costco au Japon
ouais. ».
Ben tu sais quoi? Moi, c'est ma plus belle des réussites. C'est comme « Wow, le monde est fier ».
C'est un rayonnement à travers
ouais,
le monde. Ouais.
C'est vraiment une belle image qu'on peut envoyer à travers l'entrepreneuriat.
Nicolas Duvernois, merci beaucoup. Belle grande passion. Fille. On parlait de passion au départ. Oui. Hein? Mais ça paraît également.
Merci.
PDG de Pure Vodka et de Romeo Gin. Dan Bigra est avec nous. Salut, Dan.
Allô.
Comment ça va ce matin? Ça va
super bien.
On te retrouve à midi avec un sujet qui fait jaser depuis, j'ai envie de dire des mois, mais même des années aussi, le fameux oléoduc. Et là, Québec ne peut pas refuser un oléoduc sur son territoire. Ça, c'est Jason Kenney qui demande à Legault de le faire.
Même, là.
Ben, ça reste lui parce qu'il vient dans l'Ouest aussi. Là, c'est
oui,
ça, ouais.
Mais il dit que c'est à cause de l'article 92 de la Constitution. Constitution qu'on n'a pas signée, je rappelle. Donc, évidemment, on parle de droit moral parce qu'on ne l'a pas signé. Ceci dit, on a des obligations fédérales. Oui, on envoie nos impôts au fédéral. Fait qu'on veut un petit peu démêler tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire? Parce que c'est clair, les Québécois n'en veulent pas de son maudit pipeline.
Ça, ça a été démontré aussi, le gouvernement.
Ça a été démontré, oui. C'est assez unanime. Oui. Là. Mais, et puis, bon, je comprends que lui, il y a des travailleurs là-dedans, mais il représente aussi des grosses industries polluantes.
Fait que ils ont autres, beaucoup d'argent aussi derrière tout ça, là.
Beaucoup
c'est
d'argent.
C'est un gros lobby.
Donc, oui, donc des campagnes très, très, très visibles. Bien, là, on va essayer de démêler tout ça. Et quelles sont effectivement nos obligations? Est-ce qu'on est obligé ou pas? On va se renseigner là-dessus. Puis, on reçoit le député Pascal Bérubé, qui se rappelle de cette nuit des longs couteaux et tout ça. Et puis, fait qu'on, on va savoir si on est tenu par la Constitution de faire passer un pipeline sur nos lignes ou pas.
Un beau débat. Et avec d'autres collaborateurs également, des activités pour... avec
plein de monde. On parle même avec notre Luc Savoie National, qui là est en vacances, mais là, il est en Israël.
Il est en Israël.
Alors, vu qu'on va y parler... Oui, on va y parler vers une heure. Fait que je me demande si on va avoir pris un petit coup, parce que c'est l'heure du souper. Je me demande...
J'ai hâte de l'emmerder.
Depuis longtemps, c'est ça.
Non, mais j'adore Luc. Fait que ça, je vais le taquiner encore un petit peu, c'est certain.
Ben, il va pouvoir parler de la réalité là-bas, parce qu'évidemment, il est allé là en vacances, mais il a dû voir un peu au niveau politique qu'est-ce qui s'est passé. Aussi, on connaît Luc. Hein? Il a dû avoir des petites entrées.
Luc, tu sais, chacun sa drogue, lui, c'est ça. C'est impossible qu'il aille là sans poser de questions, sans se renseigner, sans apprendre des nouvelles choses.
Donc, c'est clair
c'est ce qu'il
qu'on
fait.
Va en parler. Merci beaucoup, mon cher Dan. On se retrouve donc à midi jusqu'à 3 heures. Nous, au retour de la pause, plein de belles choses encore. Dany Saint-Pierre, vous savez, c'est notre nouveau collaborateur. Les jeudis, il va venir nous donner des trucs, des conseils. Donc, autant le barbecue, les légumes, la culture également. Et là, aujourd'hui, il va nous donner des recettes avec les fraises. Ça peut sembler bien, bien simple, mais les fraises du Québec sont arrivées. Je sais que ça a été un peu plus long cette année. Les producteurs nous avaient avertis. Mais semble-t-il que c'est une très, 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 très bonne saison. Moi, j'en ai goûté. Donc, il va y avoir des recettes également avec les fraises. Et on va parler également d'un phénomène que je déteste. Et là, je le dis, c'est le fameux beach body. Vous savez, là, le corps de plage. Il faut donc être parfait. On se met en maillot. Oui, Dan, tu fais bien de rentrer ton ventre. Oui, mais on devient stressé avec ça. C'est rendu qu'on n'est plus capable de s'accepter, de se regarder dans le miroir.
Il y a deux positions admises en société. Tu as bien droite à la plage, puis t'as tout foqué à la brasserie.
C'est exactement ça. Donc, on va en parler avec la psychologue Stéphanie Léonard. Donc, au retour de la pause, on s'en va aux informations Cogeco et je vous retrouve tout de suite après.